19h-20h. Et les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, bonjour, ravi de vous retrouver. Vous le savez, comme chaque soir, nous sommes mercredi et c'est un plaisir de vous retrouver les amis. Durant une heure jusqu'à 20h, on va tenter d'analyser, commenter, décrypter l'actualité ensemble. La mécanique n'a pas changé, au menu, ce soir au sommaire, eh bien pour vous accompagner, l'invité actu avec une particularité, la création d'une maison de la diaspora et du monde africain. Nous allons en parler dans une poignée de minutes, justement, nous allons tenter de comprendre de quoi s'agit-il de cet enjeu qui est en train de s'installer auprès de la diaspora en France. Africaine, bien sûr. Ensuite, j'ouvrirai l'antenne 01 53 48 3000 avec les sujets qui nous concernent. Faut-il rendre le vaccin Covid-19 obligatoire? La question se pose. La question se pose aujourd'hui aussi également puisqu'on a fermé 6000 classes. Eh bien, certains sont tentés de faire reconfiner le pays. On en parlera tout à l'heure. Et puis, on parlera de Bruno Le Maire qui propose donc un chèque cadeau qui a été requalifié, qui s'élève à 250 euros. Eh bien, est-ce cela suffisant? Nous en parlerons tous ensemble, ici même, dans Les Informés, jusqu'à 20h. Programme riche avec le face-à-face. Le face-à-face, vous le savez, c'est une élue face à un réalisateur engagé. C'est tout à l'heure, à 19h15 précisément. Les Informés, ça n'a pas changé, hein, vous le savez. La liberté d'expression, c'est ici que ça se passe, sur Beurre FM. C'est parti.
Beurre FM, 19h-20h. Les Informés avec Adil Farkan.
Eh bien, pour l'invité actu, c'est parti, c'est tout de suite maintenant.
Les Informés, l'interview.
Avec un invité aujourd'hui qu'on connaît très bien aussi, il s'appelle Rayed Chaibi. Bonjour Rayed Chaibi.
Bonsoir Adil Farkan.
Bonsoir président de l'association de la coopération franco-tunisienne. Comment ça va?
Très bien.
Très bien. Vous êtes là avec une casquette, celle du président de la coopération franco-tunisienne, non pas débatteur, mais en tout cas en tant qu'invité. Nous allons parler, vous savez, de ce fameux sommet qui s'est tenu récemment, ce sommet africain, sommet donc France-Afrique, Afrique-France, dans l'autre sens plutôt. Rappelons un petit peu la genèse de ce sommet. Vous y étiez, on en a beaucoup entendu parler. Qu'en est-il aujourd'hui de ce fameux sommet Afrique-France, monsieur le président?
Eh bien, ça part de la volonté en fait du président de la République de refonder les liens entre l'Afrique et la France, avec au cœur de cette refondation la société civile et notamment les diasporas. Et donc, le président de la République a souhaité organiser un sommet, pour une fois un sommet Afrique-France, mais qui ne soit pas composé de chefs d'État, mais qui soit composé d'acteurs de la société civile.
Parce qu'on s'est posé beaucoup la question. Un sommet Afrique-France sans chef d'État, c'est complètement inepte.
C'est une première, je crois, c'est la première fois, il y a eu, je crois, 27 sommets Afrique-France, c'est le premier sommet où il n'y a pas des chefs d'État, mais des acteurs de la société civile. Et donc, pour pouvoir organiser ce sommet, le président de la République a chargé l'historien Achille Mbembe, dont je salue d'ailleurs.
Le franco-camerounais.
Tout à fait, de lui remettre un rapport. Le professeur Achille Mbembe, de lui remettre un rapport avec des recommandations. Donc le professeur Mbembe, dont je salue le travail parce qu'il a été extrêmement, très riche et consistant, aux côtés d'ailleurs du Conseil présidentiel pour l'Afrique et aux côtés de l'ambassadeur Sylvain Ité, qui est l'envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique. Oui. Il y a eu toute une série de consultations qui ont été menées, notamment auprès des diasporas, ce qui était le cas d'ailleurs du professeur Mbembe, qui a organisé différentes consultations, y compris sur le continent africain, dans 12 pays, dont la Tunisie notamment, et auprès des diasporas. Et des consultations qui ont porté sur différents sujets aussi divers et variés que la santé, le climat, l'insécurité alimentaire, la question mémorielle, des mémoires, l'entrepreneuriat des jeunes, l'égalité femmes-hommes, entre autres. Et donc, il a remis un rapport le 5 octobre dernier au président de la République avec notamment 13 recommandations, parmi lesquelles, notamment, la Maison des mondes africains et des diasporas.
Justement, on va en parler parce que vous avez été convié récemment, justement, à l'Élysée.
Tout à fait.
Une réunion à huis clos. Me semble-t-il.
C'était une réunion qui a été organisée effectivement par le cabinet du président de la République et notamment le cabinet diplomatique chargé notamment des questions africaines et des diasporas, qui était d'ailleurs piloté par l'ambassadeur Sylvain Ité, qui est l'envoyé spécial pour la diplomatie publique en Afrique. Et donc l'idée était de consulter les diasporas.
Tous les acteurs, en tout cas en France, de ce vivier de la diaspora.
Tout à fait, sur notamment.
Dont vous faites partie.
dont je fais partie. En tout cas, j'ai été convié et je les en remercie. Et donc, l'idée, en fait, était de porter des propositions, notamment sur ce projet phare qu'a annoncé le président de la République, ce projet de la Maison des Mondes africains et des diasporas.
Et des diasporas. Tout à justement, fait. Parlons-en. Vous avez été donc convié à cette réunion à l'Élysée. Qu'est-ce qui s'est raconté? Qu'est-ce qui s'est dit? Vous êtes venu les mains vides? Vous avez écouté? Vous avez échangé? Vous êtes venu avec des propositions vous-même pour cette création des mondes, en tout cas la création de la Maison africaine et de la diaspora? Qu'avez-vous vous-même vécu? Comment vous l'avez vécu cette réunion?
Tout d'abord, c'était intéressant parce que c'est vrai que cette initiative-là du président de la République est pour moi clairement le symbole de cette refondation des liens entre l'Afrique et la France, et surtout le symbole de cette diversité culturelle africaine. Première chose. La deuxième chose, c'est que il était intéressant de découvrir, je dirais, les contours de cette nouvelle structure, de cette nouvelle institution qui aura pour objectif de mettre, je le disais, la diversité culturelle africaine en avant, mais également le dialogue, de mettre également en avant la recherche et l'innovation, notamment avec une proposition issue du rapport d'Achille Mbembe sur la mobilité vers l'Afrique, et puis la question du mémoriel notamment et du dialogue ô combien important. Et donc j'ai souhaité faire part également de propositions en ce sens, considérant que cette Maison des Mondes africains et des diasporas doit être également le lieu de ce que j'appelle l'action multilatérale.
L'action, justement, parlons-en, Monsieur le Président. Vous êtes président de la coopération franco-tunisienne. Qu'avez-vous proposé, justement, pour aller dans le concret? Est-ce qu'il y a, évidemment, une proposition qui a été retenue durant cette réunion?
Alors, nous avons formulé au moins cette proposition-là, en tout cas c'est la proposition que j'ai formulée, de mettre en valeur ce que j'appelle l'action multilatérale, c'est-à-dire cette nécessité de coordonner les efforts des acteurs de la société civile aux côtés des acteurs institutionnels, en particulier des collectivités territoriales. Et d'ailleurs, c'est une proposition qu'avait faite Achille Mbembe. Achille Mbembe, dans le rapport qui a été remis au président de la République, parle notamment du portail des diasporas, c'est-à-dire un dispositif qui permet d'accompagner, d'être un dispositif d'accompagnement et de soutien à des projets. Et je souhaite que cette proposition du professeur Mbembe soit reprise. Pourquoi? Parce que la plupart, pour ne pas dire la quasi-intégralité des acteurs engagés vers l'Afrique sont des acteurs associatifs, entre autres, pas que, mais qui portent des projets vers le continent. Et donc il est important, selon moi, de pouvoir avoir un portail dans cette future structure qui, je dirais, informe les acteurs associatifs notamment des mécanismes dont ils ont le droit pour financer leurs projets. Je prenais cet exemple-là, je disais, mais qui autour de la table, par exemple, connaît la loi Santini-Oudin? Personne ne connaît ou alors elle est très peu connue, sauf dans les milieux concernés. Oui. La loi Santini-Oudin est un dispositif qui a été voté au Parlement en 2005 et qui permet par exemple à des collectivités de pouvoir faire financer des projets, notamment sur l'eau ou l'assainissement et maintenant sur l'énergie avec l'amendement Pinta, de pouvoir consacrer 1% de budget de fonctionnement sur des projets sur l'eau, l'assainissement ou les énergies. Il est aussi important, et c'est la proposition que nous avons formulée, de mettre davantage en synergie les collectivités avec les associations. J'avais justement...
Mais à quoi? Alors, il y a quelque chose qui nous échappe un peu, c'est-à-dire, je comprends bien évidemment la teneur de la réunion que vous avez eue, j'entends aussi évidemment vos propositions, mais c'est la création de c'est une volonté d'Emmanuel Macron, la création justement de cette maison africaine
et des diasporas. C'est une proposition du professeur Mbembe qui a été reprise par le président de la République.
Est-ce que la création va changer le paysage justement de ce rapport France-Afrique-Afrique-France, Afrique-France justement?
D'abord, seul le temps nous le dira, mais moi je considère que c'est un pas important vers ce que j'appelle moi la synergie des forces de la société civile africaine. Parce que, et c'est aussi une des remarques que j'avais formulées, c'est que ça nous permettra peut-être de parler déjà entre nous, acteurs des diasporas, parce qu'on ne se parle pas assez. On est investi pour nos pays respectifs, moi j'en suis fier, je suis investi entre mon pays de naissance, la France, et mon pays d'origine, la Tunisie, mais je serais extrêmement fier si demain, grâce à ce dispositif, on puisse permettre, en tout cas, on puisse... je dirais avoir la possibilité avec mes amis rwandais, marocains, algériens, égyptiens, comoriens congolais, de pouvoir porter ensemble des projets, de pouvoir s'entraider et de pouvoir porter un certain nombre d'initiatives sur le continent. Je pense que cette structure a aussi cette vocation-là, pas que. En tout cas, moi je me bats pour que l'aspect de la coopération internationale, de l'aspect de la coopération décentralisée, ce que j'appelle l'action multilatérale, soit au cœur de ce dispositif, au cœur de cette nouvelle structure.
Monsieur le Président, justement, vous êtes en train, vous me poussez à vous poser cette question-là. L'avenir de l'Afrique passe par la jeune génération, justement, par cette génération qui est la vôtre ?
Entre autres.
Entre autres.
Entre autres, mais pour moi, je dirais que c'est un... Il y a une synergie. Ça passe par une synergie, c'est-à-dire par...
Donc l'avenir appartient désormais auprès de vous-même, cette nouvelle génération.
Ce serait peut-être trop prétentieux et peut-être assez réducteur, parce que finalement, peut-être qu'on arrivera à faire avancer les choses en ayant ce savant mélange entre la nouvelle génération...
Alors qu'est-ce que vous voulez écrire comme histoire avec la diaspora, justement, franco-africaine
Moi, j'ai envie qu'on arrive à faire ce que peut-être on n'a pas réussi à faire auparavant, c'est-à-dire, et je le disais tout à l'heure, le dialogue déjà entre nous. Entre nous, déjà. Et si on arrive, nous, acteurs des diasporas, à se mettre d'accord, à dialoguer, première chose, à dialoguer, se connaître, ne serait-ce que se connaître, et par la suite, porter des initiatives. Moi, je suis franco-tunisien. Si demain, j'arrive à faire une proposition, grâce à cette initiative de la Maison des Mondes Africains des Diasporas, qui certainement va changer de nom, mais si j'arrive demain à... pousser une proposition ou une initiative qui puisse avoir son impact à Abidjan ou à Bamako, j'en serais extrêmement fier, parce que l'idée de notre proposition, c'est de mettre en avant, et je le répète, en synergie, ces acteurs-là
de
diaspora.
Refonder les liens ?
C'est de les consolider, parce que entre nous, ça se passe très très bien. Il peut y avoir des tensions diplomatiques, entre les pays, mais entre nous, entre les peuples, ça se passe très bien, et on doit être justement, on doit sortir de ces carcans politiques et diplomatiques et construire ensemble sur le terrain.
Raïd Chaïbi, Monsieur le Président, justement, je m'adresse à vous de façon très directe. Est-ce qu'aujourd'hui, que représente aujourd'hui cette diaspora franco-africaine ?
Une richesse.
Une richesse ?
Une richesse.
Est-ce qu'elle est aujourd'hui cette force de frappe ?
Bien sûr.
Oui, économique ?
Économique, économique, culturelle, commerciale, bénévole, solidaire. On peut mettre tous les superlatifs sur la table, bien évidemment. C'est à la fois une force de frappe, c'est une très grande richesse. Ce sommet l'a démontré, puisque c'était vraiment un sommet qui avait rassemblé aussi bien des acteurs économiques que des acteurs associatifs, que des acteurs engagés dans le domaine de la santé, dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'éducation. Et je pense que il est nécessaire qu'on se mette autour de la table et qu'on arrive à construire ensemble.
Justement, Elisabeth Moreno a été chargée par le président de la République, Emmanuel Macron. C'est la ministre, justement, de l'égalité des chances. Elle a été chargée par le président de faire un peu le suivi de ce sommet Afrique-France, qui a débuté donc, qui a vu le jour sur la ville de Montpellier, et sur la question de la diaspora, évidemment franco-africaine. Quel rôle vous voulez jouer justement dans ce nouveau dispositif ? Voulez-vous vous inscrire ?
Tout d'abord, je salue le choix qui a été fait par le président de la République de demander à Elisabeth Moreno, qui a, je dirais, la détermination, la motivation et puis surtout l'énergie pour porter ce sujet ô combien important. Première chose. Deuxième chose, quel sera mon rôle ? Écoutez, ça sera le rôle que peut-être on acceptera de me confier. En tout cas, moi, je serai extrêmement fier avec les autres acteurs des
diasporas. Qu'est-ce que vous avez envie de jouer comme rôle ? Je la pose différemment,
question. C'est pas forcément un rôle, c'est plutôt qu'est-ce que j'aurais envie de porter. Et moi, ce que j'ai envie de porter, et d'ailleurs je n'ai pas inventé l'eau tiède, puisque ce sont des propositions qui émanent d'ailleurs du rapport de Achille Mbembe, et que je souhaite voir mettre à l'œuvre. C'est plutôt la proposition d'avoir, comme je le disais, un dispositif qui permette d'accompagner les structures associatives, notamment, sur des projets en Afrique, de pouvoir avoir un mécanisme, un dispositif qui permette à ces acteurs associatifs de savoir qui peut financer quoi, dans quel secteur, et surtout quelle structure peut les accompagner, de pouvoir avoir cette transparence sur les moyens dont ils peuvent bénéficier. Un exemple très concret.
On a aujourd'hui
un dispositif qui dépend du ministère des Affaires étrangères, qui est l'action extérieure des collectivités territoriales. C'est entre 700 millions et 1 milliard d'euros qui est consacré à l'action extérieure des collectivités territoriales. 2020, d'après les chiffres qui sont sortis sur le site du Quai d'Orsay, c'est, je crois, 122 millions d'euros qui ont été utilisés, en tout cas déclarés par les collectivités territoriales. Bien sûr, il y a eu la crise sanitaire. Mais ça indique que ces fonds doivent être davantage, peut-être mieux utilisés, ou doivent être utilisés, ou peut-être mieux connus. Et ce que je propose notamment, c'est de faire en sorte que, notamment sur ce volet, sur ce pôle de l'action multilatérale, je souhaite davantage qu'on incite C'est très difficile à faire, mais je sais pas forcément impossible. De faire en sorte de mettre également autour de la table ces collectivités pour qu'elles travaillent également entre elles et avec nous.
On l'aura compris, durant la création donc de cette maison des Africains et de la diaspora, évidemment, vous voulez jouer, vous voulez compter, en tout cas plus que jamais dans l'échiquier, et vous voulez, je l'entends aussi, en tout cas ici même, être un acteur franco-africain.
C'est surtout porter des propositions qui, je pense, peuvent avoir leur utilité.
Quel message vous avez envie de lancer ?
Eh bien, qu'on puisse se rassembler, qu'on puisse agir ensemble.
Merci, Raya Chaibi, le président donc de la coopération franco-tunisienne. Merci, monsieur le président,
merci
d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
On suivra ça avec beaucoup d'attention, puisque c'est des choses qui vont faire parler, évidemment, dans les prochains mois. 19h15, nous allons retrouver le standard 01 43 01 53 48 3000, mais également aussi le face-à-face avec nos deux débatteurs influenceurs, Gamal Abina et Naïga Stevel. A tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
19h22, nous sommes très heureux, vous le savez, nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Le générique jingle pour le standard est ouvert.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Mes amis auditeurs, est-ce que vous pensez que le vaccin, on doit le rendre obligatoire ? C'est une vraie question que tout le monde se pose. Est-ce que vous êtes pour un confinement ? C'est une question qu'on se pose. Je vous attends en 01 53 48 3000, le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Naïga Stefel. Bonjour Naïga.
Bonjour Adil.
Réglez votre micro, mettez-vous à l'aise, tranquille Naïga.
Vous m'entendez là ?
Oui, très bien, okay, je vous capte très bien ma chère
super
Naïga. Europe Écologie Les Verts, et puis vous représentez, vous êtes élue départementale à Vitry-sur-Seine.
C'est ça.
Dans le Val-de-Marne.
Exactement.
Tout se passe bien ?
Tout se passe bien,
oui,
on fait notre bonhomme de chemin.
Face à vous, c'est quelqu'un qu'on connaît très bien, que je ne présente même plus, il s'appelle Gamal Abina, il rentre d'un séjour, il passe sa vie dans les avions, ce jeune homme. Il est bien, ça va la ville ?
Ça va,
ça va, il, pas, il est là, il est au Maroc, il est en Turquie, il est en Algérie, mais qu'il se balade dans la vie, quoi. Ça va, moi je peux prendre votre métier. Attends, on ouvre le micro, il n'est pas ouvert son micro, monsieur le réalisateur.
C'est quoi ?
Voilà, oui. Maintenant c'est bon.
Ah, ok, ouais. D'accord. Non, mais après un confinement de un an, on a envie de sortir un peu pour voir ce qui se passe dehors. Quoi.
Réalisateur engagé, mais aussi producteur, donc ça va.
Ouais, j'essaie de faire des choses.
01 53 48 3000. Nous vous attendons. On va commencer avec cette histoire de Covid-19. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui annonce que 6000 classes sont fermées en France. Alors évidemment qu'on parle de 30 000 cas en 24 heures, messieurs. Est-ce qu'on peut craindre évidemment avec les classes qui de l'école primaire en particulier, hein, avec évidemment, est-ce qu'il faut déployer les tests salivaires, comme le précise le ministre, pour éviter évidemment un nouveau confinement ? Est-ce qu'il faut, d'abord première question que je vous pose à vous, et puis quand on voit cette forte hausse des fermetures, comment doit-on aujourd'hui réagir ? Quelle interprétation doit-on avoir ? Parce que 6000, c'est beaucoup quand même. Et puis ça pose un véritable cas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça joue aussi sur la psychologie de l'enfant. Gamal Abina.
Non, 6000, c'est pas tant que ça, ça ne représente même pas 1% d'établissement. Ensuite, s'ils le font, c'est parce qu'il y a de véritables inquiétudes sur certaines régions, pas partout évidemment, c'est très, très ciblé. La dernière fois qu'ils avaient fait ça, c'était 18 000, donc on est sur un chiffre qui est vraiment inférieur. Mais surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, fermer pour ça, c'est de la prévention, je peux l'entendre, hein, le principe de précaution. En réalité, le test salivaire ou tous les tests qui doivent préexister à l'entrée.
Mais c'est quand même 2000 de plus que la semaine dernière,
oui,
mon cher Gamal.
Oui, c'est normal. Il faut donner des vrais chiffres par rapport à la réalité française, c'est que la France est très, très bien gérée en matière de Covid pour le moment. C'est-à-dire que par rapport au reste de l'Europe, ça se passe très, très bien, il faut le reconnaître. On a eu, je crois, 50 morts il y a deux jours, on est à 90-100 morts hier, je crois, si je ne me trompe pas. Aujourd'hui, on n'a pas les chiffres, ils vont arriver. Mais surtout, il faut se rappeler qu'il y a 5 millions de morts dans le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. 5 millions de morts, là, ça commence à ressembler à la fameuse grippe espagnole. On est sur des chiffres très importants, sachant qu'on a tout fait pour empêcher que les morts augmentent, mais ça a progressé. Donc, il ne faut jamais se dire que la précaution qui est prise est excessive, c'est pas vrai. Elle est importante, pourquoi ? Parce que les gens n'ont pas compris que les enfants, si on cible les enfants, c'est pas parce que les enfants sont porteurs de maladies dangereuse au départ ou qu'ils seraient potentiellement qu'elle serait mortelle sur eux. On sait qu'ils sont parfaitement équipés pour se défendre et que, sauf cas très très rare, en règle générale, ça se passe bien. C'est parce que les enfants donnent la maladie aux parents et aux grands-parents. Donc le problème, c'est qu'ils sont pathogènes, c'est-à-dire qu'ils portent la maladie en eux. Et c'est ce que l'État veut éviter, parce que c'est un pays quand même. Rappelons que la France a plus de 50% de gens, 50% de la population qui a plus de 50 ans. Donc ça signifie que la majorité de la cible de la maladie est très importante. C'est un pays vieillissant, la France, c'est pas un pays jeune, et que ces jeunes ne sont pas un risque en soi pour eux, mais sont un risque pour les autres.
Ouais, mais c'est vrai. Naïga Stéphel, justement, qu'en pensez-vous? Et je poserai la question qui fâche, parce que les auditeurs me reprochent aussi régulièrement de trop en parler du Covid-19. Est-ce qu'il faut en parler? Faut continuer d'en parler? Est-ce qu'il faut continuer de sensibiliser? Ou est-ce que je vous poserai la question, messieurs? Mais c'est vrai. C'est des questions aussi que nos auditeurs se posent. Est-ce qu'on en fait trop? Est-ce qu'on, au point même où ça devienne une espèce de psychose? Je vous poserai la question. Je voudrais vous entendre là-dessus. Naïga Stéphel.
Eh bien, moi déjà, je pense qu'il faut en parler. Et c'est essentiel que l'on communique sur le sujet toutes et tous. Alors après, il faut en parler.
Alors d'abord sur le test salivaire. Restons sur les 6 000 classes fermées.
Sur le test salivaire. Alors les 6 000 classes fermées, déjà, entendons-nous bien. Effectivement, je rejoins, c'est peu. En revanche, on parle uniquement des classes de primaire. Il y a 6 000 classes fermées parce qu'il n'y a que les classes de primaire qui ferment. En revanche, c'est vrai qu'il y a un autre sujet, c'est que les collégiennes et les collégiens, les classes ne sont pas fermées, les lycéens, les universitaires, les classes ne ferment pas. En revanche, il y a beaucoup, beaucoup d'enfants qui sont aujourd'hui privés d'aller à l'école s'ils ne sont pas vaccinés. Donc ça, c'est un autre sujet, mais il faut aussi le prendre en compte. Ça ne rentre pas dans les chiffres, mais c'est une dimension à prendre en compte.
Est-ce qu'il faut mettre en place tout simplement, cette question qui se pose d'ailleurs, et qui est précisée par le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, les tests salivaires?
Alors, il y a plein de choses à mettre en place.
Ça fait débat, messieurs et madame.
Oui, alors les tests salivaires, déjà, si effectivement le gouvernement recommencer à permettre la gratuité des tests pour toutes et tous et non pas conditionner à avoir... Aujourd'hui, on peut aller se faire tester gratuitement que si on a une ordonnance ou si on est vacciné. C'est totalement aberrant et ça montre un peu l'orientation politique qui est menée. Est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que pour nous, en France, au vu de la crise sanitaire que l'on traverse, la priorité est de détecter le nombre de personnes contaminées, donc à savoir... pour les détecter, ça passe uniquement par les tests PCR et antigéniques, en grande partie. Et donc, on doit pouvoir donner cet accès à tout le monde. Puisque sinon, on lance le message, si on est pauvre et non vacciné, on va pas se faire tester.
Pour les enfants de la primaire, est-ce qu'il faut faire des tests, mettre en place des tests salivaires? Est-ce que ça risque pas de traumatiser les gamins?
Je sais pas si ça va les traumatiser et honnêtement je pense pas, mais on ne peut pas tout reporter sur les enfants. Il faut, je le dis, remettre.
Bah si, Gamal Abine, il a dit que c'est aussi eux
mais c'est pas,
qui transmettent
c'est
aussi
un
le
faux problème, c'est comme mais le c'est, confinement.
Ça peut pas être
unique.
Un faux problème, chers amis. Gamal Abine vient de nous dire
problème.
Précisément que c'est eux qui sont porteurs.
Bien sûr, ils sont porteurs, mais déjà d'une, ce n'est pas
et auprès de leurs parents et grands-parents.
C'est pas les seuls porteurs et aujourd'hui, on doit permettre à la population française de savoir s'ils sont contaminés ou pas pour se protéger et protéger les autres. C'est la première étape.
Gamal Abine, alors, on dit quoi? On dit qu'il faut des tests salivaires,
oui,
il faut les généraliser.
Indiscutablement, tests salivaires. Moi, je suis depuis le premier jour pour la généralisation de tous les tests.
Je vous entends pas du tout.
Du tout.
Prenez le micro à côté.
Ça va mieux là, comme ça?
C'est le live, c'est comme ça.
J'entends bien.
Là, c'est mieux.
Non, on est bon, d'accord. Donc, je disais par rapport aux tests, effectivement, il faut généraliser, il faut même pas se poser de questions. Il n'y a même pas à négocier sur le fait qu'il faille anticiper un mouvement d'ose de la maladie parce qu'on a vu ce qui s'est passé. Les gens, à la mémoire courte, il y a un an et demi, deux ans maintenant, c'était une hécatombe, c'était monstrueux. Bon, moi, je suis parisien, donc c'était pire que tout. On a eu une vingtaine de morts autour de nous. Donc, ça, c'est des réalités. Après, la question de savoir pourquoi, parce que la question qui vient d'être soulevée à l'instant par mon interlocutrice, entre guillemets, c'est de savoir pourquoi est-ce que je mets les deux, c'est rare.
Non, c'est ça, vous êtes en conférence.
Okay.
C'est le mec qui l'entend. En meeting.
Une présidentielle.
C'est ça.
Présidentielle. Moi, Gamal Abine, je me lance.
Je vais essayer, ça va dire.
Non, il marche très bien, il n'y a pas besoin de l'autre.
Ok, très bien. Donc, je disais, pourquoi faudrait-il imposer. Je comprends la démarche du gouvernement. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'ils ne disent pas les choses telles que directement.
C'est ça.
Alors, l'Autriche l'a dit clairement. Obligation vaccinale, on discute plus. En France, comme ils veulent pas parler d'obligation parce que soi-disant pays des Lumières, pays latin et toutes ces bêtises là, eh bien on fait
toutes de la ces bêtises là. Voyons, oui,
c'est les concepts. Dans le fait, ça veut rien dire. On n'est pas tous dans la lumière. Il n'y a pas d'exemple en France, faut être très clair.
Ça c'est sûr.
Et donc ce que je veux dire, c'est que pourquoi est-ce qu'il devrait pas directement être frontaux imposer la vaccination? Pourquoi? Moi, je suis pas fan de la vaccination. J'y suis allé à reculons parce que la peur elle est là. Faut pas. Mais de l'autre côté, ça sert à rien de faire des coups de pression comme ça parce que ce sont des coups de pression. On a l'impression qu'il parle à des gamins.
quand même.
Je poserai la question tout à l'heure, s'il faut rendre le vaccin obligatoire.
Et quasiment, et je vais y venir en une seconde. Oui. La question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi ils font ça, pourquoi ils imposent le fait de payer. C'est une façon de faire payer ceux qui n'ont pas voulu aller se vacciner.
C'est ça.
Donc c'est un coup de pression qui est énorme. On est à 80% à peu près de vaccination double dose. On parle de la troisième dose, on va en parler après. Mais c'est ça la question qui se pose. Pourquoi ils le font? C'est un coup de pression, tout simplement.
19h31 avec une minute de retard, c'est le Quad 9.
Les informés, le Quad 9.
Et on retrouve nos débatteurs influenceurs tout de suite après. Le Quad 9, avec, vous le savez, le prestigieux médecin, hein, il s'appelle Dr Majid Seoussine, comme chaque mercredi d'ailleurs, eh bien, il est avec nous en direct. Bonjour mon cher docteur Majid Seoussine.
Bonjour mon cher Adil, prestigieux comme vous y allez.
Je suis un mais Al Professeur,
un OS de la médecine.
Mais c'est normal, c'est soit on est Al Professeur ou on ne l'est pas.
Ah, écoutez, là, vous allez me faire gonfler les mollets. Et aujourd'hui, fort heureusement, je ne porte pas mes bottes.
Bon, tant mieux, mon cher docteur. Dites-moi, aujourd'hui, vous avez décidé de consacrer votre billet d'humeur avec une idée particulière. On vous écoute. C'est parti pour le votre Quoi de neuf à vous.
Eh bien, écoutez, mon cher ami, nous allons faire un peu d'histoire, ce qui va vous changer un peu de toutes ces séries que vous regardez en boucle sur Netflix. ou alors du vélo que vous pratiquez avec deux petits trous sur les côtés.
Il a vu la photo.
Ah, ça taille. Eh bien oui, je pratique comme ça. Tout le monde sait que je pratique du vélo, c'est très bien.
Bah, écoutez, il faut faire attention à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux. Hein. On a vu les photos avec vous en train de faire du vélo au bois de Boulogne avec du...
Non, j'étais pas au bois de Boulogne, je vous rassure tout de suite. Il est beau le docteur, on vous écoute.
Écoutez, j'ai décidé de vous parler d'un personnage que vous ne connaissez peut-être pas, oui. Edmond Bloch.
Oui, on vous écoute, oui, absolument pas.
Cet homme est né en 1884 à Saint-Quentin. Il est issu d'une vieille famille juive alsacienne. Il fait des études de droit et obtient un diplôme de l'École libre des sciences politiques. En 1909, il fonde l'Association républicaine des étudiants de France. Il est alors malmené par les étudiants de l'Action française qui lui reprochent ses origines juives. En 1914, comme tout bon français, il part à la guerre, se comporte honorablement, il est blessé, prisonnier par les Allemands, libéré en 1916, réformé, décoré de la Croix de guerre et de la médaille militaire. Dans l'après-guerre, il s'active dans des associations d'anciens combattants. Il finit par être décoré de la Légion d'honneur. Il échoue à se faire élire à Paris aux élections municipales. Et en 1929, il participe à un meeting avec Joseph Darlan. Darlan qui fondera sous Vichy la milice. Et avec des dirigeants de l'Action française. Charles Maurras, le fondateur de ce mouvement d'extrême droite bien connu, le considérait comme un juif bien né. Son principal adversaire de l'époque, fondateur de la LICA, Ligue contre l'antisémitisme, dira de lui « Embourbé dans de curieuses passions nationalistes, il court systématiquement se jeter dans les bras des professionnels du racisme. Il s'est baptisé gaulois, une fois pour toutes.
Oui. »
Après les émeutes de 1934, né de l'affaire Stavisky, vous savez, cet escroc d'origine juive qui avait des accointances avec les politiques et qui faillit faire renverser la République sous les coups de boutoir de l'extrême droite. Souvenez-vous de cette manifestation de février 1934 où il y eut plus de 2000 morts, plus de 15 morts, pardon, et plus de 2000 blessés sur la place de la Concorde.
Exact.
Manifestation qui était animée par les camelots du roi, de la Ligue des Patriotes, du député Tattinger, nom qui ne vous est pas étranger, et les croix de feu du fameux colonel de la Roque, qui fit un peu avorter le mouvement en refusant de s'associer à l'émeute et de donner l'assaut au Parlement. C'était les Gilets jaunes de l'époque.
Exact.
Edmond Bloch se rapproche encore un peu plus de l'extrême droite en créant l'Union patriotique des Français israélites, avec des slogans qui vont vous parler un peu et vous rappeler certaines choses, des slogans comme « Français d'abord » ou « Il faut choisir ». Il s'oppose au Front populaire animé par un autre israélite, Léon Blum, et à la LICA.
Exact.
Il dénonce à l'époque à la fois le sionisme, qu'il considère comme une antenne du Comintern et donc du bolchevisme, et au racisme à la manière hitlérienne. En 1936, il déclara « La religion prime la race, la religion passe après la patrie ». Il échoue une seconde fois à être élu dans le Marais en 1936 et est battu par un communiste aux législatives. En 1938, il participe au mouvement du Front National, je ne parle pas du parti de Jean-Marie Le Pen qui était déjà né, mais ce n'était pas lui, qui réunit des dirigeants de l'extrême droite, munichois. Il demande à ce que le droit de vote soit retiré ou naturalisé depuis moins de 5 ans et un assainissement de la vie politique française. En 1941, resté à Paris, il est interné, arrêté et mis à Drancy dans le fameux camp de la Muette, où vécu quelqu'un dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui prétend que Pétain sauva des Juifs. Protégé par Valla, il est relâché en 1942, puis interné de nouveau dans un camp de travail à la gare d'Austerlitz jusqu'en 1944. En 1954, il s'oppose à un autre Israélite, Mendès France, sur sa politique en Indochine et en Afrique. et déclara « Pierre Mendès-France n'engage que lui et ses corps légionnaires ne demandent pas à partager avec lui ni haine ni opprobre. » Il finit par se convertir au catholicisme et mourut en 1975 et eut droit à une messe à Notre-Dame de Paris. « Mon cher Adil, je ne me garderai pas de faire de parallèle, comparaison n'est pas raison, mais ce parcours interpelle un petit peu et nous rappelle quelqu'un qui est désormais une personnalité, mais aussi d'autres, un peu moins radicales, que l'on entend parfois, et qui furent parfois porte-parole des Républicains, ou qui fricotent avec une droite nationale et un printemps qui se dit lui aussi républicain, et qui, sous couvert d'une dénonciation de l'islamisme ou d'une défense de la République qui en vaut le coup, bien sûr, en fait, traduisent un problème qu'ils ont avec eux-mêmes et leur soi. Voilà, il est bon parfois de rappeler un peu l'histoire.
Vous avez raison, complètement, de nous avoir plongé dans l'histoire. Et effectivement, je reconnais ce billet d'humeur. Bravo d'abord pour ce billet d'humeur, pour consacrer évidemment au parcours d'Edmond Bloch, parce qu'il nous renvoie aussi à plein de choses. Il me semblait de mémoire, il s'est pas un peu fighté aussi avec Briand, un récit de Briand, Edmond Bloch, quand on regarde l'histoire, ça clashait pas mal, hein.
Ça clashait pas mal, c'était une belle époque. Ils ne pouvaient pas s'entendre avec Aristide Briand parce que la République, vous savez, les gens de l'Action française appelaient ça la gueuse.
Oui, c'est ça.
La catin, la péripatéticienne, pour ne pas employer un mot un peu plus vulgaire qui choquerait les oreilles de ma maman qui écoute.
Ouais.
Donc, ils ne pouvaient pas s'entendre avec Aristide Briand.
C'est ça. Je vous dis ça parce que c'est vrai que quand j'avais... Ça me remonte, hein, ces vieilles... Le reste de mes...
Ça remonte. Ça remonte un petit peu, là. Ça remonte des égos de l'histoire.
Merci pour ce billet d'humeur. Bravo, en tout cas, à vous. Écoutez... c'est bien de nous avoir effectivement rappelé certaines choses et l'histoire nous renvoie aujourd'hui à cette réalité. Mon cher docteur Majid Soussi, vous êtes chef de service à l'hôpital Sainte-Camille, mais également aussi à l'hôpital aux Invalides chez les militaires. Merci à vous. À la semaine prochaine avec autant de plaisir.
Avec joie, avec joie, avec joie.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur la Covid-19 ? Et puis on est en plein sujet avec Naïga Steffel et Gamal Abina. En 30 secondes, qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ? Il y a alerte ou pas alerte ?
Ben j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sans vouloir affoler les foules.
Bon, bah écoutez, merci.
Il est bien placé pour en parler.
Merci de nous rassurer, mon cher docteur. Allez, à très bientôt.
À votre service.
19h38, nous allons marquer la seconde pause pub. On se retrouve tout de suite après avec évidemment les questions qu'on se pose. Gamal Abina, Steffel, Naïga Steffel. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h-20h. Les informés avec Adil Farkad.
Justement, on se posait la question et on va la poser aujourd'hui, ce soir même dans Les Informés. Il est 19h42 si vous venez de nous rejoindre, le face-à-face avec Naïga, qui est une élue, Naïga Steffel, qui est une élue dans le Val-de-Marne, sur la ville de Vitry-sur-Seine. Élue Europe Écologie Les Verts, bien sûr, départementale, hein, donc élue départementale face à elle. Vous avez Gamal Abina, qui est réalisateur engagé aussi, notamment sur les questions politiques. Dites-moi, est-ce qu'on doit parler, continuer à parler justement du Covid-19 ? Est-ce qu'on doit parler du confinement ? Est-ce qu'on doit parler de cette troisième dose. Est-ce qu'on doit parler de ces questions ? Moi, certains auditeurs m'ont dit ça suffit, stop, c'est bon, ça nous saoule. Est-ce que aujourd'hui, on doit continuer d'en parler ? On doit continuer de sensibiliser nos auditeurs ?
Oui, parce que le problème, c'est qu'il y a des gens qui sont inquiets et quand on a une inquiétude, il faut lever les inquiétudes. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de mouvements anti-vax. Alors, c'est primaire. Je ne parle pas de ceux qui ont peur de la vaccination. Ceux-là, je les respecte et je suis pareil à eux là-dessus. Ceux qui posent problème, c'est ceux qui sont anti-vaccination par principe idiot. Alors, ce n'est pas dire le mouvement anti-vax. Il existe depuis longtemps. Hein. Il y a des mères de famille, par exemple, qui n'ont pas vacciné leurs enfants contre
les
vaccins.
Mais non, moi, j'ai eu des auditrices qui n'ont.
Voilà, ils ne font. Malheureusement, c'est souvent des gens qui sont pas très très informés, souvent des gens qui sont facilement influençables, qui ont peu de connaissances du fait vaccinal, c'est-à-dire qu'ils se rendent même pas compte que grâce à la vaccination, et rappelons-le quand même, ça a éradiqué des maladies qui étaient monstrueusement mortelles, je veux dire, on parle vraiment.
Qu'est-ce que vous répondez quand certains vous disent que la vaccination n'est pas efficace aujourd'hui?
Tout ça, c'est un mensonge, ça. La vaccination, elle empêche pas d'attraper. C'est marrant, à chaque fois, on tombe dans le piège. La vaccination, elle
est pas. Je vous pose la question parce que oui, beaucoup la pose.
Oui, voilà. Ben justement, la réponse, elle est très claire. La vaccination n'empêche pas, évidemment, d'attraper la maladie, ça n'existe pas. Il n'y a aucun vaccin au monde qui l'empêche. La vaccination n'empêche pas d'avoir des gens avec de fortes comorbidités de mourir de cette maladie. C'est évident, quand on est faible, de toute façon, et qu'on développe des symptômes autres que cette maladie, vous rajoutez ça par-dessus, c'est un massacre. Mais en revanche, la vaccination empêche, pour la majorité des cas, l'immense majorité des cas, entre 85 et 90% des gens, de mourir. Et il suffit, on n'a pas eu l'occasion de développer avec Dr. Majid Soussi, mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le taux de mortalité à l'hôpital, pour 85%, 80% des cas, ce sont des non-vaccinés. C'est-à-dire que la démonstration est faite.
Eh ben, je vais ouvrir l'antenne, 01-53-48-3000, si vous voulez interpeller ou rajouter ou commenter ou nous dire tout simplement votre point de vue, je vous attends. Naïga, Stéphel, est-ce qu'il faut continuer d'en parler, justement? Alors, avant, oui, de dire, avant de soulever cette question, doit-on rendre obligatoire le vaccin, la troisième dose vaccinale? Et le pass sanitaire qui serait potentiellement transformable en vaccin, en pass vaccinal.
Il faut continuer d'en parler pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça touche, on est dans le cadre d'une pandémie mondiale. Ça touche toutes les Françaises et les Françaises, pour ne prendre que la situation nationale. Et ça a un impact pas uniquement sanitaire, économique et social. Donc on doit en parler, on doit en parler pour trouver des solutions, on doit en parler pour ne pas tout attendre de l'État, pour que ce soit les collectivités locales, les collectivités territoriales, les associations puissent pallier aux carences que l'on subit déjà depuis 2 ans. On voit qu'il n'y a pas beaucoup d'évolution. Je pense à la continuité pédagogique, je pense au développement et au maintien du télétravail à l'accroissement des inégalités sociales.
Donc, cinquième vague, c'est réel? C'est parti,
c'est
reparti?
Bien sûr, c'est réel. 39 000 cas enregistrés. Oui, on est dans la cinquième vague. Ça, les Français l'acceptent.
Est-ce qu'on risque de se retrouver dans un scénario un peu catastrophe? Pardonnez-moi de poser la question un peu alarmiste, hein. Je suis désolé.
Non, je crois pas du tout.
Moi non plus, je ne pense pas. En revanche, il est important que les Français, par contre, se raisonnent et que le gouvernement fasse passer le message. Vous savez, la vaccination, c'est très important. Par contre, il faut qu'on soit tous raisonnablement informés face à cette vaccination. Amal le disait tout à l'heure, elle n'empêche ni de contracter le virus, ni de retransmettre le virus. Elle empêche les formes graves.
Absolument.
Donc, de mourir. À partir de là, on se doit, c'est pas parce qu'on est vacciné que l'on ne doit pas respecter les gestes barrières. Le 20 novembre, le Conseil scientifique a émis des recommandations. Effectivement, il y a le fait...
Alors, les non-vaccinés, je voudrais les entendre, justement. Ceux qui ont décidé de faire le choix de ne pas se faire vacciner.
Et on ne peut pas tout remettre sur eux, parce que même les vaccinés ont la responsabilité d'adopter les gestes barrières. Je tiens à le souligner, il faut vraiment qu'on soit raisonnable là-dessus.
Oui, alors, Gamal Abina, doit-on rendre le vaccin obligatoire, cette troisième dose? Est-ce que vous, évidemment, avec beaucoup de fermeté, hier, par exemple, il y a des débatteurs influenceurs qui m'ont dit avec beaucoup de fermeté, d'ailleurs, il y a eu un clash entre les auditeurs, et puis voilà, mais c'est aussi l'objet de la radio. Gamal Abina, vous, qu'est-ce que vous répondez sans détour?
Mais moi, je suis sans détour. Ce qu'a fait Macron il y a 6 mois était nécessaire et il a quand même fait un coup de pression qui a fonctionné. Il fallait voir les queues hallucinantes pendant les vacances. C'était stratégique, c'était réfléchi. Les gens avaient le temps, ils sont allés se faire vacciner. Il a fait un coup de pression pour faire peur aux gens en leur disant vous ne sortirez plus. Donc c'est une façon de faire pression sans dire que c'est obligatoire. C'est dommage. Moi je pense qu'il vaut mieux aller directement dans le frontal. C'est obligatoire. Je suis pas favorable à ça dans la mesure où moi j'aime pas me faire vacciner. Mais il faut le rendre obligatoire parce qu'il y a des conséquences. Et je vais donner un exemple très concret. On vient d'apprendre, c'est Science qui vient de pondre cette étude, qui explique que ceux qui ont eu le Covid, ça a été mon cas, ont une protection naturelle qui dure entre 1 an et demi et 2 ans, puisqu'ils ont à peu près 2 ans de recul maintenant. J'ai été vacciné le sachant déjà ça. C'est-à-dire que je me suis fait prendre une
alors vous n'avez pas besoin de vaccin.
J'en avais pas besoin. Je l'ai fait pourquoi? Parce que je savais que j'aurais été bloqué pour le pass sanitaire, machin, toutes ces questions-là. Mais en vérité, je l'ai fait aussi parce que c'est une façon de rassurer mon entourage. Alors évidemment, on peut être égoïste et petit bourgeois, puisque certains sont petits bourgeois. Ils savent que s'ils sont malades, ils vont être pris en charge à l'hôpital parce que c'est plus saturé, parce que c'est une façon vraiment de profiter.
Priorité au direct. Nabil de Maison Alfort, pardonnez-moi de vous interrompre, mais je voudrais entendre les auditeurs. 01 53 48 3000. Nabil, bonsoir Nabil de Maison Alfort.
Bonsoir Adil.
Bonsoir, vous voulez adopter mon ton?
Non. Écoutez, moi, je voulais juste réagir par rapport à votre sujet, je ne suis pas vacciné.
Oui, bah justement, ça tombe bien, vous n'êtes pas vacciné. Racontez-nous.
Bah, je trouve que le vaccin n'est pas efficace et que le vaccin, on ne connaît pas vraiment son efficacité, son utilité.
Donc là, vous vous adressez à Gamal Abina.
Au début, on nous l'a vendu comme quoi on n'allait pas faire de femmes graves. Et quand j'entends hier sur CNews, Dr Perron qui dit que...
Oh là.
Il y a une étude anglaise qui a démontré l'inverse, que la plupart...
Eh ben merci pour votre question, oui.
Docteur Perron, quel
homme. Je me pose des interrogations et on n'a pas de recul avec ce vaccin ARN messager.
Vous savez quoi, Nabil? Votre intervention est extrêmement importante parce que beaucoup pensent comme vous. Vous interpellez justement Gamal Abina et Naïga Stéphel. Vous me permettez, Nabil, je voudrais installer un dialogue, un échange entre les débatteurs influenceurs. Gamal voulait répondre.
Alors déjà, il ne faut pas écouter le docteur Perron.
Et Nabil, vous répondez quand vous
parce
voulez.
Parce qu'il a des choses à se reprocher, parce qu'il a des choses à...
Pourquoi
enfin,
il
a... Chacun fait... Non mais juste un instant, chacun fait carrière. Je vais vous donner juste une démonstration.
Non mais vous avez dit pourquoi.
Oui, je vais vous dire justement. Non, je vous
moi
réponds.
Je veux un échange.
Oui, je vais lui répondre en une seconde.
C'est un docteur quand même. Il est docteur ou pas?
Le docteur Perron a raté sa carrière professionnelle, mais c'est un autre débat, on ne va pas revenir là-dessus, il n'est pas intéressant.
Non
mais juste un instant, parce qu'il y a à boire et à manger. Maintenant, je parle des faits. Le pays qui a le moins de morts actuellement en Europe, c'est la France quasiment. Donc si c'est pas si la vaccination ne marchait pas, ça se verrait. Il y a un autre pays, la Suède, qui démontrait qu'ils sont quasiment plus de morts. Les pays où la vaccination est massive, il y a pratiquement plus de morts. Mais surtout, j'attire votre attention sur une chose. Les antivax ou les courants qui ont peur, et je les comprends, ces courants-là, ont été plus qu'informés sur ce vaccin. Pourquoi? Pour une chose, l'ARN messager, personne ne savait ce que c'était. Mais les laboratoires ont quand même dit qu'ils l'utilisaient. C'est-à-dire qu'ils ont tellement documenté, tellement donné d'éléments d'information que finalement ça a fait peur aux gens. Mais en vérité, j'ai envie de vous dire que le risque Gamal. D'être affecté par la maladie est tellement monstrueux
Nabil.
Qu'en comparaison.
Nabil, Gamal, pardonnez-moi, oui, Nabil.
Est-ce que je peux vous répondre? Moi, premièrement, je ne suis pas d'accord avec votre invité, dans la mesure où, là, on parle d'un docteur. Docteur Perron, qui est médecin, qui est
c'est
docteur.
Pas Dieu.
Qui est quand même diplômé, qui a des connaissances. C'est pas un petit. Donc, premièrement, voilà, votre invité, je sais pas s'il est médecin ou pas.
Il n'y a pas besoin de médecin pour voir qu'un avion rentre dans une tour.
Allez-y, Nabil.
Alors, le deuxième point, on nous dit que le vaccin protège contre les formes graves. Alors, comment se fait-il que les gens qui ont été vaccinés deuxième dose sont décédés aujourd'hui? Moi, dans mon entourage, j'ai mon beau-père qui est décédé. Voilà.
Paix à son âme.
Il avait les deux doses d'AstraZeneca dans un cabinet généraliste. Mmh. Il est décédé. Donc voilà. Donc,
il avait quel âge, votre beau-père?
On ne fera pas de forme grave, c'est faux, parce que là, c'est même pas forme grave. Là, c'est très, très grave, parce qu'il est décédé quand même.
Mais d'accord, mais il avait quel âge, votre grand-père? Votre beau-père.
Le troisième point, c'est pas on est petit bourgeois ou pas, parce que j'ai entendu vos propos. C'est pas ça. C'est qu'effectivement, on a peur. Parce qu'on a un historique avec les vaccins. Mmh. Il y a des gens qui ont fait le vaccin contre l'hépatite B, ils ont eu la sclérose en plaques. Il y en a d'autres qui sont décédés via des vaccins. Ça n'a pas été prouvé peut-être, mais il y a des liens de corrélation. Donc, on a de quoi avoir peur en sachant qu'on n'a pas de recul avec ce vaccin qui est là depuis quoi.
Vous avez en tout cas planté le décor. Merci Nabil.
Merci.
Pour votre intervention. On va vous répondre parce qu'on arrive aussi au terme. Nabil, merci pour votre fidélité.
Je vous en prie, Adil.
Et à très bientôt, évidemment, vous nous rappelez quand vous voulez. On arrive au terme de cette émission. Qu'est-ce que vous pouvez répondre, vous, Naïga, Stéphane, à Nabil, qui vous a évidemment développé, lui, sa pensée?
Je remercie déjà Nabil pour son témoignage. Et il ne faut pas sous-estimer, je dirais, les personnes comme Nabil qui sont réfractaires, mais pour différentes raisons. On observe qu'en général, les réfractaires du vaccin, soit c'est par manque de confiance aujourd'hui la politique gouvernementale, soit par manque de confiance. La plupart disent oui, c'est un complot économique pour enrichir tout ça. Il y a des solutions à ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut discuter du brevet des vaccins et des milliards de bénéfices obtenus par ces sociétés. Par contre, il faut pas se leurrer. Aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas dire que le vaccin, c'est la solution miracle. En revanche, on peut toutes et tous affirmer que nous n'avons pas d'autre solution pour lutter contre cette pandémie que l'option du vaccin et du respect des gestes barrières. Je ne suis pour l'obligation de rien. En revanche,
vous,
on ne peut pas...
Contrairement à Gamal Abina, vous
non,
dites
moi,
non.
Je ne suis pas pour l'obligation vaccinale. Je suis pour travailler
Gamal,
avec les acteurs
lui,
locaux.
Oui.
Mais moi, je suis, en fait, pour que l'obligation se fasse. L'obligation n'a jamais convaincu aucun citoyen et citoyen, surtout dans la situation actuelle. L'hypocrisie du gouvernement aujourd'hui ne peut être ignorée.
On arrive au terme. Non, mais juste pour dire, c'est que le DTP audio, enfin toute une collection de vaccins qu'on a obligatoirement, hein, tous les enfants les ont, là on ne discute pas là-dessus. Il y a des vaccins qui sont obligés pour aller en Afrique, on ne les discute pas. Donc le problème, ce n'est pas de savoir si on doit obliger ou pas, le problème c'est de savoir qu'il faut éduquer, là je suis d'accord
c'est
avec
ça.
Vous. Les gens ont peur et c'est légitime parce qu'ils ne comprennent pas.
Merci.
Et on ne doit pas politiser le vaccin. Et c'est ça le gros problème aujourd'hui, c'est pour ça que les Françaises et les Françaises sont
merci
bien souvent défiants.
Débat très riche. Hein. On va le reproduire. Hein.
Avec plaisir.
L'échange avec les auditeurs, justement. Oui. Vous avez vu. Hein.
Ouais.
Bilal Nedman.
Bonsoir.
Le PSG, la Ligue des Champions. Quelle soirée face au Manchester City.
Le premier, on va parler du LOSC qui a remporté son match hier face à Salzbourg. 1-0. On accueillera une belle invitée, Dany Sans Chagrin, qui nous vient tout droit du Canada, ah, du Québec. Voilà.
Super.
En plateau avec nous. Sans oublier un bel match que toute l'Europe attend.
Olé,
le PSG, Manchester City face au Paris Saint-Germain.
PSG, ouais.
PSG. Ça, on verra si Wijnaldum. Hein. Oui, on verra.
Ah, ça vous embête, ça vous fait chier, c'est quoi que je
dis PSG. Non.
Ah, PSG, c'est le Marseillais, là, c'est le rouge.
Ne t'inquiète pas.
C'est le rouge, je le sens.
Le cas de Karim Benzema. Voilà.
Karim Benzema, quelqu'un encore avec Karim Benzema, qu'il n'existe pas
avec la justice.
Ah oui, c'est vrai. Oui, oui. Mais il fait appel.
Malheureusement, oui, bien sûr.
Il fait appel.
Bien sûr.
Eh ben, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, j'écouterai 20h21.
C'est ça. Benzema.
Merci à Naïga Steffel.
Merci à Di. Merci Pécologie à Mal.
Merci à Gamal merci. Abina, infiniment. Merci à vous. À la réalisation, merci. À la réalisation, c'était Yanis. À demain avec autant de plaisir. On ne lâche rien. Ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.